IMO, le congrès immobilier FNAIM, le rendez-vous de tous les professionnels de l'immobilier en partenariat avec Axéo et Procivis sur Radio IMO.
Bienvenue sur Radio IMO. Et oui, on continue. Dernière interview au congrès IMO de la FNAIM au Carrousel du Louvre. Et on clôture cet événement avec Henri Buzicazo. Bonjour.
Bonjour Bérénice.
Président fondateur de l'IMSI. Peut-être futur ministre du logement. Allez, on commence. On met les pieds direct dedans.
Bon, Bérénice, d'abord, premièrement, quand on a de tels hommages de personne, de personnalité de son secteur, eh ben on ne boude pas son plaisir. Donc moi, je vous remercie de dire ça. Voilà. Vous voyez, il y en a qui disent « Oh là là, mais non, machin... » Mais non, mais c'est... Vous savez, après 35 ans dans ce secteur, que des personnes, journalistes ou professionnels, vous disent... Il y en a plein qui m'ont dit... alors, aussi parce que je suis proche... historiquement, effectivement, de quelqu'un qui pourrait être Premier ministre, mais qui disent...
François Bayrou, pour ne pas le noter.
Bien sûr.
Allez.
Bien sûr, mais c'est très clair. Et donc, qui disent, mais tu pourrais être ministre du logement, mais ça me touche infiniment. Voilà, ça, je commence par dire ça. Après, bon, plus, j'allais dire plus sérieusement. D'abord, on attend... peut-être demain, ça aurait pu être pendant le congrès de la FNAIM, c'est pas le cas.
A priori, ce sera sous 48 heures, voilà, c'était les dernières actus.
Oui, je crois que c'est vraiment ça, et puis on peut pas se permettre de laisser ce pays sans gouvernement plus longtemps, donc on connaîtra l'identité du Premier ministre. Oui, François Bayrou est pressenti, fait partie des... sans doute des deux ou trois noms finalistes, et parce qu'il présente un certain nombre de caractéristiques. C'est un homme modéré, fédérateur, ouais.
Rassemblerait.
Oui. Et alors, pour le logement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, ici, pendant deux jours, j'ai entendu des choses extraordinairement rares sur la ministre sortante, on va dire, démissionnaire du logement, Valérie Létard.
Alors, qu'est-ce que vous
entendez? Encore ce matin, on sait que cette femme-là, cette responsable politique, elle fait l'unanimité. Et tout le monde dans la filière souhaiterait sa reconduction. Mais pourquoi? Parce qu'elle arrive à fédérer... Le projet de budget, là, il est tombé, avec le gouvernement renversé. Tout le monde espère qu'il va ressortir parce qu'elle était arrivée sur 4 ou 5 mesures fortes à organiser le consensus de l'extrême gauche à l'extrême droite.
Elle a surassemblé, en fait.
Elle a surassemblé. Sur ce secteur dont on a parlé ici pendant deux jours, qui est le logement. Et ça, c'est un petit miracle. Moi, je suis très fier d'être dans un secteur qui peut motiver.
Mais comment ça se fait qu'elle est surassemblée par rapport aux autres ministres, à ses prédécesseurs?
Ah, c'est une très bonne question. Quand elle a été nommée, j'ai fait partie de ceux qui ont identifié les 3-4 grandes qualités qu'elle avait, les 3 grands atouts. Élue locale, très ancienne. Elle a été élue de tous les niveaux de collectivité locale, de la commune jusqu'à la région. Très fidèle à ce secteur d'activité, elle le connaît très bien. Sensibilité sociale, aujourd'hui, les circonstances sont difficiles pour l'essentiel des ménages. C'est une ancienne assistante sociale, elle est sensible à la vie des ménages et à leurs difficultés. Elle connaît très bien la mécanique d'État, elle avait déjà été dans des gouvernements. Bon.
En fait, c'est une femme de terrain.
Femme de terrain.
Qui a l'expérience de la politique.
Exactement. Et aussi, les valeurs. Moi, je le dis, les grands ministres du logement, ils ont eu une sensibilité, quand ce n'était pas une appartenance politique, centriste. Démocrate chrétienne. Voilà. C'est une grande histoire. Eugène Claudius Petit, le premier ministre de la Reconstruction, premier ministre du logement après la guerre, était un centriste. Tous les grands ministres ont eu cette fibre-là. Hier, la Fédération a accueilli Pierre Méhaignery. Il était de cette fibre-là et beaucoup d'autres. Donc, elle a ses qualités.
Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que pour être un bon ministre du logement, il faut être modéré.
Ouais, parce qu'il faut savoir... Quel est le sujet? Il est très simple. Il faut... avoir un sens de l'économie, c'est-à-dire de ce que le secteur peut rapporter, notamment de richesse, et ça manque aujourd'hui. On a une impasse de 20 milliards de TVA et droits de mutation en deux ans, parce qu'on n'a pas su comprendre que le logement pouvait relancer la machine économique, bon. Relancer l'industrialisation, relancer la démographie. Bon. Ça, c'est l'approche économique. Et l'approche sociale? Vous savez, c'est les gilets jaunes, ça a été dit dans une table ronde hier par un grand sociologue. Les gilets jaunes, c'est l'histoire de ménages qui ont été disqualifiés par le logement, qui étaient dans des communes tombées en déprise, dont la maison individuelle souvent n'avait plus de valeur, qu'il fallait rénover au plan énergétique, et qui se sentaient mal aimés dans la société. Et qui, pour ces raisons-là, ont manifesté et ont cassé, se sont révoltés. Donc, l'équilibre social, il se fait autour du logement. Il faut cette double sensibilité économique et sociale. Et c'est vrai que, on va dire, les démocrates chrétiens, cette grande filiation, mais il y a des démocrates chrétiens qui sont plus à droite, d'autres qui sont plus à gauche. Si on n'a pas ces vertus-là, on ne comprend pas grand-chose au logement. Voilà.
Et justement, là, en parlant de partis, c'est vrai que les extrêmes montrent peu d'intérêt pour le logement.
Ah, je ne partage pas votre avis. Ce matin, alors, l'extrême gauche n'était pas représentée.
C'est ça, ils ont quand même refusé de venir.
Ah, je ne sais pas, j'ai entendu ça du président de la
FNAIM. J'ai demandé avant vous à Loïc Quentin, il m'a dit qu'ils avaient refusé de venir.
Bon, enfin, en tout cas, l'an dernier, moi j'ai de la mémoire, j'animais la table ronde politique et il y avait Stéphane Peu, issu du communisme, qui aujourd'hui, on va dire, est dans la partie extrême de la gauche et qui est un très grand spécialiste de politique du logement. Il était invité. Est-ce que c'est lui qui a refusé de venir ? Je ne sais pas.
Non, ce n'était pas lui.
En tout cas, il fait partie de ces figures, on va dire, qui sont à la gauche de la gauche. C'est un remarquable spécialiste et qui est très modéré. Très modéré. Il n'est pas pour la confiscation de la richesse, il n'est pas contre les propriétaires privés, loin de là. Côté extrême droite, ça c'est le RN était représenté et Frédéric Falcone, qui est l'homme porteur du dossier logement au RN, était là. Moi, j'ai quand même retenu de cette table ronde que sur des choses très importantes, il était aligné.
Oui,
bon,
c'est vrai,
alors il y a un sujet qui est la transition environnementale sur lequel.
Alors eux, ils veulent totalement enlever le DPE, le calendrier lié au DPE, par exemple.
Là-dessus, je pense qu'ils sont dans l'excès.
Après, ils pensent aux propriétaires bailleurs, du coup.
À côté de ça, je retiens une chose, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas été insensibles au message, notamment de la FNAIM ou de l'UNIS ou de l'UNPI, consistant à dire vous allez trop vite et trop loin, on ne sait pas faire. Et donc le RN a pris en compte ces messages, peut-être même de façon excessive, de façon un petit peu, peut-être un peu clientéliste. Mais en tout cas, sur les gros sujets, le prêt à taux zéro, la fiscalité, le besoin d'attirer des propriétaires investisseurs de nouveau vers le logement.
Bon. Le RN est en phase.
Mais oui, est en phase avec un François Jolivet issu d'Horizon, avec Dominique Estrosi Sassone, qui est aussi une femme de droite, avec Annaïg Le Meur du parti présidentiel, l'ensemble, mais qui est une modérée. Donc, moi, je retiens surtout ce qui les réunit. Bien sûr qu'il y a des choses qui les séparent, et parce que c'est le jeu politique aussi, il faut s'identifier. Si on est à l'extrême droite, il faut qu'on se distingue de l'extrême gauche. Mais moi, j'ai le sentiment de 80%, je donne ce chiffre, c'est un calcul de coin de table, je vois 80% de périmètre commun. Voilà. Ce qui est pas mal.
Alors justement, par rapport à ce congrès, si vous deviez nous donner votre impression générale de ces deux jours, ce qui vous a marqué.
Bon, première chose, moi je suis sensible aux ambiances. Un congrès, c'est une ambiance. Hein, c'est comme un dîner qu'on organise chez soi. Bon. Excellente ambiance. Alors, faut pas se tromper. Est-ce que ça veut dire que les professionnels qui étaient là sont très heureux, que tout se passe bien, que les ventes se passent bien, que la gestion est facile, que les copropriétés votent les travaux de rénovation qui conviennent. Non, c'est pas le cas. Je crois que ce congrès, il aura une fonction qui est de plus en plus celle des congrès, c'est-à-dire on se rencontre, on partage des pratiques, des bonnes pratiques, on se remonte le moral. On a le sentiment d'appartenance à une communauté professionnelle et ça fait du bien. Voilà. Donc, très bonne ambiance pendant deux jours. Mais qui ne doit pas cacher qu'il y a des difficultés. Et pour ces raisons-là, on est venu au congrès et
on se soutient.
Donne de la force. Ouais. On se soutient, exactement. Après, des débats, justement, pour partager les bonnes pratiques, pour donner des solutions qui étaient de très bonne qualité. Notamment les débats politiques. Moi, des débats politiques, j'ai suivi ceux avec les anciens ministres hier, et puis ceux avec les parlementaires de diverses sensibilités aujourd'hui. Moi, je n'en sors pas déprimé. Je trouve qu'il y a des idées. Je trouve que ce soit les anciens qui prennent de la hauteur, que ce soit les actuels parlementaires, ils arrivent à trouver des points d'accord. Voilà. Donc ce secteur, il est politiquement fédérateur. C'est peut-être l'un des seuls dans ce pays, parce que c'est pas sur la réforme des retraites, ou sur l'éducation, etc., qu'on a des grands accords, ou sur le financement de la défense.
Tout le monde va dans le même sens.
Oui, franchement, oui. Ouais. La différence est ténue entre les différentes sensibilités.
Ouais. Après, c'est vrai qu'il y a juste certains partis qui prennent plus la défense des locataires, on va le dire, et d'autres un peu plus peut-être la défense des propriétaires.
Oui, mais même, bien sûr, vous avez raison, allez, c'est un peu la règle du jeu. Et vous savez, j'attends de voir si on remettait sur le métier les rapports locatifs. Ça a été demandé par un certain nombre de politiques, et par la fédération d'ailleurs, il faudrait peut-être rééquilibrer. Mais dans les faits, la modération s'impose et les débats, vous voyez, j'inaugure la semaine prochaine, je profite de votre antenne pour le dire, un lieu d'échange entre les parlementaires passionnés de logement de l'Assemblée et du Sénat, tout bord confondu, qui va s'appeler République et Logement. Voilà, je lance j'inaugure ce lieu. La semaine prochaine, je verrai combien de parlementaires viennent à cette réunion de lancement que je fais à l'Assemblée. Je fais ça avec le directeur de la publication de la revue Politique et Parlementaire. Je le fais pourquoi ? Parce que je veux qu'à côté de l'Assemblée ou du Sénat, un peu en dehors de la politique, il y ait un lieu où on partage des choses, on s'écharpe un peu, parce que je pense que ça va être ça aussi, hein. Et que, par exemple, sur les rapports locatifs, on trouve un équilibre. Bon, les rapports locatifs, dans ce pays, ils ne se passent pas mal. Ceux qui vous disent les locataires sont tous des gens exploités ne disent pas la vérité. Et ceux qui disent les propriétaires sont tous terriblement malheureux parce que les locataires ne les respectent pas, ne paient pas le loyer, dégradent les logements, mentent. Bon, la vérité, c'est que ça se passe plutôt bien. Et notamment quand il y a, ça a été dit aussi ce matin, un professionnel dans le jeu, intermédiaire, tiers de confiance.
C'est vrai, on l'a vu dans les études, hein, quand il y a un tiers de confiance, quand il y a un professionnel, il n'y a pas de loyer impayé, il n'y a pas de... Les rapports sont beaucoup plus fluides.
Mais évidemment, vous savez, le vivre ensemble, hein, c'est un grand sujet. Et habiter ensemble, dans les villes, dans les quartiers, d'abord, on ne peut pas faire autrement. Et quand ça ne va pas dans un pays... le pays va pas bien du tout. Mais on a envie de vivre ensemble. Vous savez, moi, je vis en copropriété. Y a des gens qui me dérangent, qui se succèdent. Mais qu'est-ce que je fais ? Je vais les voir. Je saisis pas le syndic, déjà. Je commence pas par là. Il y a des accords. Il y a des accommodements qui se mettent en place. Et la loi, elle-même, elle doit se faire sur la base de ces zones médianes, en quelque sorte.
Pour finir, Henri, un mot sur 2025. Comment vous voyez cette année pour le logement ?
Oh, je crois que la clé, on l'a beaucoup, là, pour le coup, on l'a beaucoup dans la politique, parce que vous savez, ce qui fait le bon fonctionnement, la bonne santé du logement, c'est la confiance. Au moment où on parle, est-ce que la confiance est rétablie ou établie dans ce pays ? La réponse est non. Il nous faut un gouvernement, par exemple. Est-ce qu'un pays qui n'a pas de pilotage...
compliqué jusqu'aux prochaines présidentielles.
Oui, alors, de toute façon, ça va être compliqué. Mais si... déjà, là, nous n'avons pas de pilote aujourd'hui. On a un gouvernement démissionnaire, comme on dit. Bon, donc, il n'y a pas de pilote dans l'avion. La ministre n'est pas venue hier. Enfin, voilà, c'est ça, la vraie vie. Hein. Ce pays, il a besoin de pouvoir s'appuyer sur ses institutions. Mine de rien, qu'on le réalise ou pas, nous croyons tous dans nos institutions. On est dans ce pays, on se dit, tiens, il y a une police, une justice, un État, un gouvernement, etc. Et ça nous sécurise, même si on n'a pas, dans le détail, on n'y pense pas tous les jours. Hein. Mais quand on les a pas, interrogez les Français aujourd'hui, il y a des sondages, dernier sondage Elab sur la confiance, il y a un manque de confiance. Donc le secret de ce que sera 2025, c'est est-ce qu'on va arriver à stabiliser un gouvernement pour encore un peu plus de 2 ans, hein, voilà, jusqu'au prochain présidentiel, pour que la vie continue, que les ménages aient envie d'investir, que les promoteurs aient envie d'acheter un terrain, de lancer une opération, que les administrateurs de biens aient envie de faire voter des travaux à 3 ans, 5 ans. C'est ça l'histoire, c'est le vrai secret. Tout le reste, Vous savez quoi ? Bien sûr qu'il faudrait qu'un bon budget ressorte au début de l'année 2025, avec un bon prêt à taux zéro, avec telle ou telle mesure fiscale. Mais le plus important, elle n'est pas là, c'est la confiance. Voilà. Moi, j'attends de ce pays qu'il soit serein. Il ne l'est pas en cette fin de congrès de la FNAIM. Voilà. Et j'espère que dès demain, ou dans les 48 heures, comme vous disiez, la sérénité relative sera revenue.
Eh bien, merci beaucoup, Henri Buzicazo. Ça y est, c'était le congrès IMO de la FNAIM pendant 2 jours. Et on vous dit à très vite sur Radio IMO.
IMO, le congrès immobilier FNAIM, le rendez-vous de tous les professionnels de l'immobilier en partenariat avec Axéo et Procivis sur Radio IMO.